Tout de suite, De quoi je me mêle avec Bouygues Télécom.
RMC, De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle sur RMC. Toute l'actualité des nouvelles techno. Tout à l'heure, on s'intéressera à la sécurité informatique et puis aussi aux conseils qu'on peut donner à vous, parents, qui laissez surfer vos enfants sur le web tout seul. Ben, c'est pas bien, il faut toujours avoir une surveillance. Mais on en parlera dans un petit quart d'heure. Et puis notre rendez-vous micro-hebdo tout à l'heure avec la rédaction de micro-hebdo qui me rejoindra. Bon, à 3 semaines de Noël, les idées de cadeaux arrivent. Cadeaux plus ou moins gros, plus ou moins onéreux d'ailleurs. Et en cette période de marasme économique, il est plus que jamais intéressant d'investir dans les produits high-tech, car les prix sont au plus bas, les bonnes affaires pullulent en ce moment, notamment dans le domaine des écrans plats. Des écrans d'ailleurs toujours plus beaux, plus fins, et surtout au top de la technologie, avec tuner TNT HD, etc., etc., écran haute résolution. Éric Surdège est mon invité. Bonjour Éric Surdège.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de LG France. Alors, LG, constructeur coréen que l'on connaît. Alors, comment s'annonce cette période de fin d'année, Éric Surdège, dans le domaine de tout ce qui touche aux nouvelles technologies, du high-tech?
Voilà, bah la fin d'année, effectivement, elle va se dérouler dans un contexte économique qu'on connaît un peu. Et la question que l'on se pose en tant que constructeur, c'est comment le consommateur va consommer ces produits high-tech, dans quels endroits il va aller les chercher. Et puis, quel niveau de valeur il va le donner à la marque, comment il va vraiment exécuter son achat.
En gros, combien il va investir, quoi.
Combien il va investir.
Ouais.
Et alors, les grandes tendances, le paradoxe un peu de cette fin d'année, c'est que le marché va revendre beaucoup plus de produits à la consommation en quantité que l'année dernière sur la même période.
Donc vous allez vendre plus que l'année dernière.
Le marché en général, et nous, et la marque LG, bien sûr, également. Mais néanmoins, les valeurs risque d'être inférieur à l'année dernière.
Concrètement, c'est-à-dire que vous allez vendre plus, mais moins cher.
Exactement.
Donc ça reviendra à peu près à ce que vous avez vendu en valeur l'année dernière ou pas?
Non.
Ou même ou moins?
Il y a ce que fera le marché et ce que fera la marque LG.
Mm-hmm.
Ce qu'on espère. Le marché, on prévoit globalement qu'il soit plutôt stable sur toute la partie téléphonie mobile en valeur, qu'il soit légèrement déflationniste, c'est-à-dire négatif sur toute la partie écran et audio électronique, et qu'il soit encore un petit peu plus négatif sur la partie électroménager.
D'accord.
Qui n'est pas une forte partie pour la fin d'année.
Ça, c'est le marché général.
Marché général.
On peut dupliquer ça pour vous, pour votre marque?
Alors, l'approche de LG a été de dire quel va être le comportement du consommateur en période de crise. Il a besoin de se rassurer par le prix.
Mm-hmm.
Il a besoin de se rassurer par le contenu de marque et l'usage. Donc, on s'est délibérément positionné sur l'identité de la marque LG, qui est de développer des produits extrêmement esthétiques, des produits qui ont une technologie utile, c'est-à-dire pas le concours de muscles en technologie, mais la technologie qui va servir au consommateur, des technologies et des produits que le consommateur va s'approprier avec un côté émotionnel, et tout ça avec un socle dur qui est la fiabilité. Donc dans ce contexte, la marque LG va introduire, que ce soit en téléphonie ou en écran, des produits extrêmement raffinés en design, extrêmement aboutis en termes de technologie utile, mais avec un niveau de prix, toujours essayant de rechercher les points d'impact moins cher que l'année dernière pour que le consommateur puisse avoir un accès assez facile.
Alors, Éric Surdège, vous êtes, je le disais, le directeur général d'LG, mais vous n'êtes pas le seul à avoir ce pitch. Vos concurrents Samsung, Panasonic, les Sony, etc. jouent à peu près dans la même course. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce design, ce côté sérieux de la marque, cette marque rassurante. C'est peut-être aussi ce qu'on peut dire, non? C'est les marques costauds, les marques qui rassurent, qui vont s'en sortir, non? Et peut-être pas, on va dire, tout ce qu'on appelle les no-name ou les marques exotiques, non? Qui, elles, risquent de pâtir de cette crise?
Oui et non. C'est-à-dire qu'en période de crise, c'est presque une loi chimique. Les extrêmes montent. L'extrême de contenu de marque, l'extrême de contenu de prix. Contenu de marque, qu'est-ce que c'est une marque? C'est une marque qui investit énormément de son chiffre d'affaires en recherche et développement sur des nouvelles technologies d'une part, et sur la manière d'habiller ces nouvelles technologies pour les rendre accessibles au niveau du consommateur, à la fois par l'ergonomie et par l'esthétique. Donc, des grands groupes que vous avez visités, la marque LG, investit énormément. Il y a 19 centres de recherche de design qui ont été créés en Europe, dans le monde, pardon, dont 3 en Europe depuis les 2 dernières années, pour aller mieux comprendre comment les besoins du consommateur, avec la bonne technologie au bon endroit dans des produits qui soient vraiment avec une ergonomie parfaite. Donc vous avez quelques grands groupes, et LG en fait absolument partie.
Bien sûr.
Et à l'opposé, vous avez des marques qui achètent des technologies, des brevets, qui développent ultra rapidement dans des châssis, parfois pas toujours les plus aboutis.
Les châssis, ça va être l'emballage de la télé, en fait.
Voilà. L'emballage, qui mettent une technologie nouvelle dans un châssis ancien et dans une esthétique parfois déjà consommée, et qui, eux, vont s'engouffrer sur la partie prix.
Et eux vont s'en sortir ? Parce qu'ils vont vendre moins cher ?
Voilà. Eux vont mécaniquement s'en sortir parce D'accord. qu'il y a quand même le consommateur à l'achat, il a un budget à gérer, donc il va aller parfois au niveau de prix ou sur le niveau de marque. Et par contre, toutes les marques qui sont un peu intermédiaires, qui ont des structures ou pas des technologies assez larges en éventail, et on ne va pas les citer, mais effectivement, des marques qu'on peut très bien imaginer, qui vont effectivement souffrir. Il va y avoir un report sur le contenu de marque, et là on est très heureux parce qu'une marque qui déploie comme LG des produits dans quasiment tous les domaines du high-tech, avec des offres produits, que ce soit sur le PC, les cadres numériques, la télévision, la téléphonie mobile, complètement aboutis en largeur de gamme, ou des marques de prix qui seront une réponse à un achat besoin. Par contre, tout le ventre mou va sans doute énormément souffrir, et c'est ce qui va faire baisser le marché moyennement.
Éric Surdège, un mot sur le prix d'un écran plat aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi bas. On est d'accord, même chez vous d'ailleurs, parce que vous parliez tout à l'heure du succès de ces marques qui vendent des produits à bas prix. Mais aujourd'hui, toutes les marques proposent des écrans à bas prix d'entrée de gamme. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre une marque inconnue qui va vendre un écran plat à 32 pouces et vous, par exemple ?
On peut dire qu'en général, vous avez un premium de différence actuellement de 25% à la marque.
Ah, quand même
25%, que vous preniez un 32 pouces, qui est si on parle des écrans, un 32 pouces, alors pour parler un 80 cm en diagonale.
C'est ce qui se vend le plus encore aujourd'hui, voilà, ou on est déjà passé à une taille supérieure ?
Non, c'est quand même la télé qui se vend le plus. En exagérant un peu, c'est un petit tiers du marché.
D'accord.
Donc c'est quand même, vous voyez, 1 sur 3 sur un marché de 5,5 millions. Donc c'est quand même énorme. Là, vous avez une différence entre le premium à la marque à features égales, à composantes techniques égales.
Features, ça va être les options.
Oui, c'est aussi les options, les sources, la haute définition, toute l'ergonomie du produit, et puis toutes les SCART, le nombre de péritels et autres.
D'accord. Bon, ça va être terrible, donc, ce marché des écrans plats pour les fêtes de fin d'année. Là, vous allez tous vous battre, toutes les grandes marques, pour essayer d'en vendre un maximum, j'imagine.
Non, c'est fantastique pour l'utilisateur et le consommateur, parce qu'il a la possibilité pour cette fin d'année, si on parle de la télé, d'avoir une offre produit extrêmement aboutie en design, d'avoir des châssis qui réceptionnent enfin le contenu dont on parle depuis des années, avec un contenu TNT HD, donc le meilleur de la résolution.
Avec une télé, donc, qui est prête pour les technologies futures, c'est ça?
Absolument,
aussi,
prêt pour les technologies futures.
Ce qui n'était pas le cas avec la TNT normale qui a posé des problèmes, parce que les gens qui ont acheté une télé il y a un an et qui n'ont pas la TNT HD aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Donc là, si on achète une télé aujourd'hui, on est tranquille. Il n'y a plus d'innovations technologiques qui vont faire que ma télé que j'ai achetée aujourd'hui sera obsolète dans un an.
Absolument, vous êtes tranquille sur plusieurs années. Ouais. Et en plus, vous avez des produits ultra plats, les produits LG, 4 cm 2, un 110 cm en diagonale, ce qui est un très grand télé, à une épaisseur de 4 cm 2, ce qui est rien du tout. Vous mettez ça vous fixez ça sur un mur, voire sur un socle dur, c'est quand même des produits qui sont beaux, qui sont bons et qui sont émotionnels.
Alors, je le disais tout à l'heure, les prix n'ont jamais été aussi bas. C'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être aussi investir, parce que justement, vous, en tant que constructeur, vous vous dites quoi ? Bon, c'est la crise. Est-ce que forcément le prix, la chose que vous dites, c'est de vendre moins cher, ou pas forcément ?
Non, en tant que constructeur, on est arrivé sur des marchés maintenant, si on parle du marché français, qui sont des marchés matures. Donc, vous avez à la fois une offre de prix qui s'est stabilisée. On parlait du 110 cm, c'est un produit en standard que vous allez acheter 1000 euros. 1000 euros, quand vous mettez ça en perspective sur les 5 ou 10 dernières années...
C'est surréaliste, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça.
C'est pour une qualité fantastique. C'est 30% du prix que ça valait à peu près il y a 5 ans, pour une qualité qui est meilleure et plus abouti. Donc ça doit ouvrir aux consommateurs, même dans une période un peu plus austère, signaux d'appel à la consommation, parce que ça, on consomme beaucoup d'écrans, en moyenne c'est plus de 2h30 par jour et par foyer, et effectivement c'est le moyen de s'approprier une technologie parfaite dans un contenu de marque qui est prévu pour durer les 5 prochaines années au moins.
On se rend compte justement, Éric Surdège, que les gens sortent moins, vont moins au cinéma, peut-être moins au resto, mais investissent quand même toujours dans le jeu vidéo, parce qu'ils se rendent compte qu'investir 70 euros ou 60 euros dans un jeu vidéo, La durée de vie en fait du produit va être plus importante qu'une place de ciné. Hein, la place de ciné, vous l'achetez, vous regardez votre film et puis vous la, voilà, c'est réglé. Justement, est-ce que les Français sont pas dans cette logique-là de se dire bon ben voilà, je vais investir dans une télé, mais parce que justement, je vais rester plus de temps à la maison, donc il faut que j'investisse dans quelque chose qui soit bien. Y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Si. C'est une tendance que vous sentez ou pas?
La marque LG est une marque extrêmement attentive sur la manière de consommer. Par exemple, depuis le mois de septembre, en France, vous avez une fréquentation des grands centres commerciaux de moins 11%. C'est énorme par rapport au nombre de foyers.
Quand vous dites centres commerciaux, c'est quoi? C'est les hyper, c'est
oui,
les,
tous ou, les grands ou, tous complexes
les, d'accord,
commerciaux.
Les grands complexes commerciaux avec les boutiques, etc.
Voilà. Une des raisons, c'est bien sûr le coût de l'essence, le transport, la restauration que vous avez citée.
Donc, peut-être une moindre appétence aussi à sortir.
Voilà. Absolument, mais à un certain moment, le fait d'être un peu plus serré dans sa manière de pouvoir consommer oriente les foyers français à devoir aménager un peu plus leur intérieur, voilà. Voire leur jardin.
Et donc investir peut-être un petit peu plus.
Et investir ce qui sera un lieu de
refuge,
convergence. Oui. Et de refuge, de l'utilisation, du loisir, de la famille. Et la marque LG se positionne vraiment c'est un peu prématuré d'en parler, mais se met dans la perspective bientôt d'offrir du contenu aussi sur des disques qui seront préchargés pour greffer ça sur sa télé, avoir un contenu de film en box, etc. On est sur ces perspectives de
donc,
consommation.
Donc, il y a des disques durs avec des films à l'intérieur, voilà. Des choses comme ça. Vous
Absolument.
Allez être sur ce marché bientôt.
On se prépare effectivement à rentrer pour aller dans le sens que vous exprimiez, d'offrir au foyer et aux consommateurs le fait de pouvoir consommer du contenu sur un écran qui soit vraiment parfaitement dans les meilleures conditions de disposition de d'image et de réception.
Les prix, bon, alors un 32 pouces, ça coûte combien pour ces fêtes de fin d'année?
Un 32 pouces, sur la marque LG, vous l'aurez entre 500 euros et 800 euros selon le modèle, la marque et les périphériques.
Donc, vous le disiez, un écran de 110 cm, c'est à 1000 euros aujourd'hui.
Voilà, en pivot 1000 euros, entre 800 et 1200, 1300.
Alors qu'il y a encore un an, on était plutôt à 1500, 1700 euros pour ce genre de produit. C'est incroyable. Ça va encore baisser, Eric Surdage? Alors c'est une question qui doit quand même vous embêter parce que ça ne doit pas être facile pour vous, constructeur, d'être toujours obligé de baisser les prix des produits. Mais ça va encore baisser ou on est au fond de la piscine là?
C'est-à-dire que à technologie, la baisse des prix se stabilise quand la technologie est complète. Le fait de savoir qu'il allait toujours avoir des nouveaux standards qui allaient se greffer a poussé à la baisse les standards existants. Maintenant qu'on est dans une configuration qui est prête pour durer
avec la TNT
plusieurs
HD,
années,
entre autres,
faut jamais. Ça... Il devrait y avoir des arbitrages entre taille d'écran, mais les masses globales devraient quand même se stabiliser sur tous les écrans. Mais en même temps, pour être sincère, on aura sûrement un mouvement encore d'une dizaine de pourcents sur l'année prochaine sur l'ensemble des tailles d'écran.
C'est vraiment impressionnant cette baisse des écrans. Enfin, cela dit, ça permet de démocratiser aussi des grandes tailles d'image pour avoir à la maison, vous le disiez, un 50 pouces à moins de 1000 euros. Alors bon, ça c'est pour les écrans. Quels sont les autres produits stars aussi chez LG pour ces fêtes de fin d'année? Parce que LG, c'est incroyable, vous êtes partout, vous êtes dans l'électroménager, du frigo américain en passant par le netbook et le téléphone portable, vous êtes partout. Qu'est-ce qui va tirer son épingle du jeu à votre avis pour ces fêtes de fin d'année?
Alors, effectivement, il y a les produits statutaires, comme l'écran, et puis il y a les produits périphériques autour de l'écran, et puis il y a les produits un petit peu plus fun, gadget, mode, fashion, etc. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, quand on distribue des produits LG, d'avoir accès un peu à l'ensemble de ces produits. Alors, on va... Quelques mots sur la téléphonie d'abord, parce que la téléphonie, c'est quand même un marché de 23 millions d'unités par an, ce qui est énorme.
Vous progressez de manière fulgurante depuis plusieurs années, France,
Maintenant, LG va atteindre les 15% de parts de marché en valeur, un peu moins en quantité. Mais si LG a atteint ses parts de marché, c'est d'abord par une réponse de produits qui offrent des solutions aux consommateurs avec leader sur l'écran tactile, avec le nouveau Renoir qui est vraiment un appareil extrêmement abouti, le meilleur de ce qui se fait en téléphone sans doute pour la photo avec 8 mégapixels. C'est vraiment presque une source de mobilité parce qu'on peut y précharger un nombre de films colossal, une capacité, bien sûr, on peut téléphoner. Vous avez le Prada 2, très extrêmement statutaire, avec un appareil qui est associé avec...
Donc Design Prada.
Design Prada.
Réalisé par Prada.
Clavier AZERTY.
coulissant, hein.
Voilà.
Voilà. Et puis il y a aussi un petit accessoire qu'on peut acheter avec le téléphone, c'est ça ?
Voilà, vous avez la montre digitale qui sera pas commercialisée directement par LG, mais en association, et qui permet d'avoir les mêmes fonctions de report dans des situations où on n'a pas forcément accès à son téléphone directement, avec une connexion directe pour avoir toutes les informations affichées sur l'écran de la montre.
Donc ça, c'est une connexion Bluetooth, j'imagine,
hein,
entre le téléphone et la montre. Donc, il suffit que je regarde ma montre pour que, un, j'ai l'heure, et deux, savoir si j'ai des SMS et peut-être même les lire, c'est ça ?
Les lire si vous avez les bons yeux.
Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est dans le domaine de la téléphonie mobile. Il y a aussi... Alors, il y a un marché que vous investissez en ce moment, c'est l'informatique et les netbooks. Alors bon, là aussi, on se rend compte que ça va être l'un des cadeaux qui va cartonner, parce que la promesse d'avoir un petit ordinateur portable léger à 300-400 euros, c'est vraiment impressionnant. Et donc LG, qu'on ne connaissait pas dans le domaine de l'informatique, arrive en force avec ça, c'est ça ?
Voilà, le marché du netbook est une nouvelle ouverture de solutions pour le consommateur. Encore une fois, comment le consommateur utilise ce produit sur, en France, effectivement, il y a l'accès à Internet, la réponse aux mails, Messenger et autres, et accès à quelques fichiers, Excel ou...
Oui, bien sûr.
Donc,
Tout ça avec un poids léger, hein, une taille relativement petite, on est à 10 pouces, hein, je crois, en matière d'écran, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, vous avez de 10 à 14 pouces, mm-hmm. Vous aurez 4 modèles qui sont lancés pour la fin d'année, vous avez un prix public qui varie de 300 euros à 400 euros, donc qui décroche complètement par rapport au prix moyen des ordinateurs portables. Et vous avez surtout une solution avec des produits qui sont vraiment accessibles à tous en usage et en prix.
Est-ce que vous allez vous associer avec un opérateur pour vendre ces produits comme le font par exemple Samsung ou autre, ou est-ce que là, ce sera le choix pour le consommateur ?
Dans un premier temps, ils seront avec la plupart des opérateurs en France et avec un accès direct aussi sur des grandes chaînes de distribution.
Voilà, puisque rappelons que certains de vos produits netbook sont livrés avec des petites cartes. Enfin, on peut directement mettre la carte SIM dans l'appareil. Il y a un slot qui est prévu et là, on se connecte en 3G, 3G+, et là, on est en totale mobilité. Hein, c'est pas mal du tout. Pour quoi, 300, 350 euros, c'est ça, hein,
tout à fait.
D'âge.
Tout à fait.
Très bien. Dernier mot, conclusion. Vous êtes comment pour ces fêtes de fin d'année ? Un constructeur comme LG, attentiste, pessimiste, relativement optimiste ?
Non, c'est le groupe LG est lucide, mais optimiste. Lucide sur le fait qu'on est dans un environnement économique, financier, social qui est compliqué. Mais c'est un peu... Mais à la fois lucide sur le fait que quand on va dans des périodes difficiles, plus on est armé par rapport à la réponse du consommateur, normalement, on doit mieux traverser ces périodes et ça doit aider à renforcer les contenus de marque et la marque en particulier. Donc, on est vraiment optimiste sur les performances de la marque LG pour la fin d'année, parce que le contenu produit, qu'il soit en écran, en téléphonie, sur les solutions informatiques, sur les cadres numériques dont on n'a pas parlé, sur toute l'audio, l'introduction des Blu-ray et accessoirement sur tout l'électroménager, a des réponses de solutions dans l'usage, avec une création de valeur d'usage et une valeur tout court pour le produit. Donc, à l'issue de cette période qui sera un peu trouble, ça devrait renforcer les marques qui ont un vrai contenu. Et LG en fera partie, c'est pour ça qu'on est résolument optimiste.
Merci beaucoup, Eric Surdège. Rappelons que vous êtes le directeur général d'LG France. Vous restez avec nous et dans un instant, ce sera notre rendez-vous, tiens, spécial sécurité informatique. On va revenir sur les fondamentaux en matière de sécurité informatique et puis s'intéresser aussi à vos enfants qui surfent sur le web. Quelques conseils à suivre dans De quoi je me mêle, là tout de suite.
Votre premier cadeau de Noël vous attend déjà chez Bouygues Télécom. Et oui, tous les forfaits Bouygues Télécom sont offerts le premier mois. Et même Néo 2. Oui, en ce moment, votre premier mois de forfait est offert. À découvrir sur bouyguestelecom.fr. Pour toute nouvelle souscription, engagement 12 mois, offre soumise à conditions, détails en magasin et sur bouyguestelecom.fr.
RMC, de quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno, chaque samedi sur RMC, 12h, 14h, 2h donc, entière dédiée au high-tech. Avant de retrouver la rédaction de Micro Hebdo comme chaque semaine, on va s'intéresser à la sécurité informatique et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de surveiller ses enfants lorsqu'ils surfent sur Internet, car le web, c'est comme la vie réelle, hein, le pire et le meilleur se côtoient. Et même s'il existe des logiciels de contrôle parental, ces derniers ne remplaceront jamais une surveillance par un adulte et puis surtout, toute une pédagogie que les parents doivent entreprendre. Pour en parler, je reçois Frédéric David Guy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert sécurité chez Trend Micro. Alors Trend Micro, peut-être que vous qui nous écoutez ne le connaissez pas, pourtant c'est un acteur important dans le domaine des logiciels de sécurité informatique. Vous fêtez vos 20 ans cette année.
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'en 1988, les virus, personne ne connaissait. On en référençait à l'époque où Trend Micro était créé que 5, je crois.
Tout à fait, tout à fait. À l'époque, déjà 20 ans, il y a 20 ans, Internet, déjà, c'était quelque chose d'assez mystérieux pour tout le monde. Et certains avaient créé quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire un virus informatique, un outil qui était destiné à détruire de l'information, ce genre de choses-là. Mais il n'en existait que 5.
Est-ce qu'il circulait par Internet, ce virus ? Non, à l'époque, c'était plutôt des disquettes, des choses comme ça.
Tout à fait, c'était les bonnes vieilles disquettes souples, celles qui prenaient, enfin, qui prenaient énormément de place.
Qui ressemblaient à des 45 tours, en
c'était,
fait. Voilà.
C'était limite une arme de défense. Vous envoyez ça dans la figure de quelqu'un, ça faisait très très mal.
Et puis en plus, on stockait, c'était quoi ? On stockait, alors j'ai pas le chiffre exact, c'était un méga, non, à l'époque,
sur même, pas, même pas, c'était les disquettes à 720 kilos, enfin bon, bref,
ouais, enfin, voilà, quoi.
Ça fait doucement sourire.
C'est quand on voit aujourd'hui qu'on a des disques durs d'un teraoctet, ouais. 1000 gigas, c'est quand même incroyable. Alors, Trend Micro est né donc en 88, dans un petit bureau en Californie, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, un petit bureau en Californie avec une problématique, avec une préoccupation principale qui était celle, alors, ce qu'on appelle la passerelle. Alors, nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est qu'une passerelle. La passerelle, pour expliquer très rapidement, c'est un point névralgique qui permet à un groupe d'utilisateurs d'accéder à Internet. Donc, c'est un point de passage obligatoire pour tout le monde.
Oui, c'est un peu comme un portique pour avant de monter dans un avion.
Exactement.
Quoi.
Et le fait de centraliser la sécurité à cet endroit-là permettait justement d'avoir une vue un petit peu exhaustive de tout le trafic qu'on avait avec l'extérieur. D'où l'intérêt de sécuriser ces points-là plutôt que les multiples points, les fameux postes de travail.
D'accord. Bon, ça, c'était donc au début. Vous étiez vraiment spécialisé, on va dire, dans le domaine professionnel.
Ouais.
Et là, maintenant, depuis quelques temps, vous êtes aussi dans le domaine du grand public avec des suites logicielles, etc., qui permettent de protéger tout le monde.
Tout à fait. On est venu sur le domaine du grand public relativement assez rapidement. Alors, pour la petite histoire, Trend Micro est une société dont le siège aujourd'hui est au Japon.
Alors qu'elle a été créée en Californie.
Alors qu'elle a été créée en Californie. Et ce qui fait que au Japon, en tout cas dans les pays d'Asie, le Trend Micro est le produit le plus couramment utilisé au niveau du poste de travail. Donc il y a une très très forte renommée. Ici, c'est vrai
plus qu'en
tout cas...
Plus que vos concurrents directs et Norton, etc.
Voilà, où on est peut-être un peu plus confidentiel en Europe, pour des questions d'historique, etc., où on est beaucoup plus reconnu en fait dans le monde de l'entreprise.
D'accord. Bon, alors la sécurité informatique en 20 ans a énormément évolué. Vous le disiez tout à l'heure, au départ, en 88, il n'y avait que 5 virus qui s'échangeaient sur des grosses disquettes. Maintenant, on est tous connectés à Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De gros progrès ont été faits. Je veux dire, aujourd'hui, bon, voilà, surfer sur Internet sans attraper de virus, il suffit d'avoir une bonne suite logicielle mise à jour pour que ça aille à peu près. Mais quelles ont été les grandes étapes des virus ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, les virus informatiques, finalement ? Parce qu'on a l'impression que, justement, les menaces se sont un petit peu écartées du virus.
Alors, en effet, ils sont d'autant plus d'actualité. Alors, pour faire un petit historique, si vous voulez, on va surtout se rappeler des virus qui défrayaient un petit peu la chronique, qui avaient pour objectif de détruire l'information, de détruire les systèmes d'information, les ordinateurs, de tout casser. C'était des individus qui, pour la recherche de la réputation, leur propre image, partaient vers le grand méchant Internet.
Pour l'ego, en fait. Voilà, ils voulaient se faire plaisir.
Voilà, et souvent, ce qu'ils trouvaient au bout du compte, c'était soit l'anonymat ou alors la prison. Dans les deux cas, c'était pas très satisfaisant.
Bon, une certaine reconnaissance dans un certain milieu, on va dire.
Oui.
Mais bon, c'est un peu comme le chef d'une bande de voyous. Quoi.
Voilà, exactement.
C'est ça. Hein.
Et donc, malgré tout, après tout ça, certaines personnes se sont rendues compte qu'on pouvait faire de l'argent avec ce type d'approche-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un rôle nuisible, je dirais, du virus, c'est utiliser le virus pour prendre le contrôle des machines et faire à des machines des choses qu'on est ensuite capable de vendre. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre ? On va pouvoir vendre soit l'utilisation de la machine, de l'espace de stockage sur la machine qui sera disponible, soit des informations qu'on va pouvoir voler sur la machine, les fameux numéros de carte bleue qu'on va voir circuler sur Internet, ce genre de choses-là.
Ça, il y en a énormément ?
Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, un numéro de carte bleue se négocie aux alentours de 7$ sur Internet.
D'accord, donc si j'attrape un virus dont le but est d'être le plus silencieux possible...
Le plus discret possible.
Donc en fait, je ne vais pas le voir.
Pas du tout. Voilà. Et c'est bien là le
alors
côté.
Alors qu'au début, c'était ça. C'est qu'il fallait que, bon, il y ait des trucs qui s'affichent sur l'ordinateur. Parfois, l'ordinateur était cassé. Enfin, c'était un gros problème.
Ah oui, le truc classique, c'était l'écran qui se retournait.
Voilà, des choses comme ça. Là, maintenant, il faut que ce soit super silencieux pour pas qu'on soit au courant, en fait.
Exactement. Parce que tout effet d'annonce va forcément lever la suspicion de l'utilisateur vis-à-vis de son ordinateur et augmenter donc l'aspect sécuritaire qu'il a vis-à-vis de son ordinateur. Le fait d'être particulièrement discret va justement amener l'utilisateur à utiliser son ordinateur de plus en plus de manière totalement transparente, voire en abaissant, je dirais, la sécurité.
Mais sa garde, en fait.
Sa garde, il va baisser sa garde parce qu'il ne voit rien. Mmh. Et à partir de là, il va commencer à enregistrer ses mots de passe sur son navigateur, ce genre de choses-là, faire beaucoup moins attention. Et c'est justement à partir de ce moment-là où, quand l'ordinateur est infecté, où toutes les informations qui vont transiter vont être récupérées par une tierce personne qui va les vendre.
Et après, qu'il les revend, en fait. Lui, il ne fait que rapatrier ces informations-là. Et après, il les revend à qui, ces informations?
Alors, il y a tout un business, il y a toute une chaîne de business ici. C'est-à-dire que pour pouvoir infecter les ordinateurs, cet utilisateur va créer des faux sites web, va créer des logiciels qui vont exploiter les vulnérabilités sur les machines, qui va embaucher des web agencies qui vont créer des faux emails en français totalement parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de recevoir un email écrit dans un mauvais français pour savoir que c'est un spam, ou en tout cas un mail de phishing. C'est-à-dire, enfin,
votre compte PayPal qui doit être modifié, etc. Alors, si on a un compte PayPal, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui,
et là, on rentre nos informations, sauf que ces informations qu'on rentre ne vont pas chez PayPal.
Elles vont chez quelqu'un qui a hébergé le site.
D'accord.
De manière totalement...
Et nous, à aucun moment, on s'est rendu compte qu'on n'était pas chez PayPal.
Et oui, parce que les sites en question sont extrêmement bien faits maintenant. Donc tout ça, on voit qu'il y a un investissement de la part de celui qui cherche à infecter l'ordinateur. Donc ensuite, il va créer son réseau. Ce réseau, on l'appelle le botnet. Le PC, on l'appelle le PC zombie. Et l'utilisateur, ce botmaster, ce propriétaire du botnet, va ensuite louer ses services, vendre les informations qui sont sur les différents ordinateurs. Et à partir de là, faire énormément d'argent.
Et voilà. Donc 7 euros, vous le disiez, 7 dollars le code carte bleue, on imagine que ça peut être un business très lucratif. Hein.
Tout à fait, 7 dollars le code de carte bleue, 5 dollars le compte PayPal. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a aussi des fournisseurs de services qui vont s'intercaler. Si vous ne savez pas comment vider le compte PayPal de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va se proposer, prendre sa commission pour vider le compte PayPal.
C'est vraiment
à la place,
une industrie underground qui s'est mise en place.
Donc il y a véritablement une industrie.
C'est impressionnant. Mais comment on peut attraper ces petits programmes qui justement surveille votre machine et renvoie ces informations? Je ne parle pas du phishing, parce que le phishing, bon, c'est un peu du bon sens, il faut être méfiant, etc., faire très attention. Mais tout ce qui est petit virus, etc., là, c'est quoi? C'est en allant sur Internet? C'est en ouvrant des pièces jointes, ou comme d'habitude, où il y a des virus à l'intérieur?
Alors, pour donner une idée, pour donner un chiffre, en six mois, les six premiers mois de 2008, on a identifié autant de virus qu'on en a identifié en 5 années cumulées.
Ah oui, c'est énorme.
C'est-à-dire en 5 ans cumulés, si on fait le total du nombre de virus identifiés, on en a identifié autant en 6 mois. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une multiplication du nombre de virus, et beaucoup moins dans une approche pandémique d'un seul virus, mais beaucoup plus de petits virus très très ciblés. Donc ils sont extrêmement difficiles à suivre, extrêmement difficiles à identifier, et en mode réactif, on a beaucoup de difficultés.
On les attrape par mail, toujours?
On les attrape d'une manière très très variable, soit par mail, soit simplement en visitant un site web qui a été infecté.
Et là, on ne voit rien du tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exécuter un ActiveX, la page web qui s'affiche, fait installer le virus.
La page web qui s'affiche, qui aura été éventuellement craquée, c'est-à-dire un pirate aura pris l'accès sur le serveur en question, même sur un site totalement légitime. Hein.
Bien sûr.
On ne parle pas d'un faux site. Même un site totalement légitime, l'utilisateur va sur le site et l'utilisateur est infecté s'il avait la vulnérabilité que ce site va exploiter. Ouais.
D'où l'importance d'avoir un logiciel de sécurité informatique à jour aussi et efficace.
Absolument. Hein. Et gérer et penser à colmater les vulnérabilités des différents éditeurs.
Alors, ça c'était un petit peu général sur la sécurité informatique, mais vous êtes là aussi pour nous expliquer comment protéger les enfants qui surfent sur Internet, parce que c'était un petit peu le point de départ de notre rencontre. Aujourd'hui, c'est vrai, Internet, c'est partout, on a plusieurs ordinateurs à la maison, avec le Wi-Fi, on est tous connectés, et c'est vrai que les enfants ont une facilité à s'accaparer s'accaparer de l'ordinateur, le clavier, la souris, à partir de 7-8 ans, ça y est, c'est parti, hein, c'est réglé. Hein, ils savent surfer sur Internet et jouer. Le problème, c'est que on oublie que Internet, c'est tout et n'importe quoi. Hein, je disais tout à l'heure, c'est la vraie vie.
C'est en effet, c'est la vraie vie dans laquelle il y a le meilleur et le pire. Et ce meilleur et ce pire est, je dirais, même pas cloisonné. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, dans le monde réel, on arrive relativement à cloisonner un petit peu les zones de risque de celles où il y a un petit peu moins de risque. Internet, il n'y a pas ses limites, il n'y a pas ses cloisons, etc. Alors après, on va faire le grand écart, parce que ce seront souvent les enfants qui vont commencer à expliquer Internet à leurs parents, comment ça marche. Et à côté de ça, les parents vont expliquer qu'il y a certains comportements qu'il faut éviter. Il y a des comportements à risque, éviter de communiquer des informations et dire qu'il y a des choses qui sont vraiment pas bien, qui existent, et ces choses qui sont pas bien et qui existent, existent d'autant plus sur Internet que c'est extrêmement difficile d'en restreindre la diffusion et la propagation.
Les logiciels de contrôle parental, c'est pas parfait.
Les logiciels de contrôle parental vont permettre de limiter quels sont les types de ressources, les types de sites, les thèmes auxquels les enfants vont pouvoir avoir accès. Alors après, à partir du moment où on considère qu'un utilisateur, que l'enfant peut aller sur un site, on va dire social, ou utiliser des outils sociaux du type chat en ligne, ou alors des outils de communication en live et tout ça, on ne peut pas ensuite définir si l'interlocuteur est quelqu'un de recommandable ou non.
C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la consultation du web, qu'on maîtrise plus ou moins avec les logiciels de contrôle parental. Bon, des fois, il y a des bugs, mais disons qu'ils ne pourront pas, avec un logiciel de contrôle parental bien configuré, aller sur des sites porno, des choses comme ça, ça ne marchera pas, hein, la plupart du temps. Mais en revanche, après, il y a tout le réseau social, hein, les Facebook, les Windows Live, les choses comme ça, où là, c'est une porte d'entrée pour pouvoir entrer en contact avec des enfants ou des choses comme ça.
D'autant plus que ces sites sont souvent des sites où on va amener l'utilisateur à donner un maximum de détails sur sa propre vie privée. Des détails qui sont ensuite exploitables pour quelqu'un qui voudrait en fait éventuellement se rassurer sa cible, sa personne. Donc on peut imaginer qu'en effet un pédophile aille sur un site Facebook, récupérer les informations pour rassurer sa future victime, parce qu'il connaît un certain nombre de choses et il sait quelle attitude adapter, quelle est la musique que la personne en question préfère, quels sont les groupes préférés, qu'est-ce qu'elle lit, etc. Tout ça. Donc trouver des points communs et la rassurer.
Alors il ne faut pas céder dans la psychose non plus, mais c'est vrai que ça peut arriver. Il n'y a pas eu encore de cas sur Facebook, je crois, de...
Ah non, Facebook.
Bon, alors ça peut être un site de rencontre, bien sûr, hein, Facebook.
Facebook, en tant que tel, n'a absolument aucun problème. C'est-à-dire qu'on souhaite donner des informations. C'est pas pire qu'un blog dans lequel on raconte sa vie.
Exactement.
Quoi. Maintenant, on peut se poser la question, et il faut expliquer aussi à l'enfant que est-ce que ce journal intime, il est prêt à ce qu'on le lise, à ce que n'importe qui le lise. Généralement, la réponse sera non.
Parce que peut-être qu'il n'a pas forcément conscience du fait qu'en mettant des choses sur Facebook, tout le monde pourra lire à partir du moment où il fait partie de son cercle d'amis. Quoi.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que là,
c'est qu'on ne se rend pas trop compte de l'amplitude de l'information qu'on peut mettre en ligne.
Et on ne se rend surtout pas compte de l'aspect temporel. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est publié, ça existe. On ne peut plus l'effacer. C'est-à-dire que ça circule, c'est dans les caches. Il y a plein, l'image est diffusée, j'efface la copie locale, et n'empêche qu'elle existe ailleurs. Une fois que c'est sur Internet, ça restera sur Internet, on ne peut plus l'effacer.
Frédéric Guy, rappelons que vous êtes expert en sécurité chez Train de Micro. La première chose donc importante, ne pas laisser les enfants surfer seuls sur Internet,
Vigilant, être derrière, poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur Internet? Il y a des choses intéressantes.
Il faut les espionner, les enfants, ou pas? Regarder un petit peu ce qu'ils font après.
J'aime pas beaucoup le mot espionner, parce que je pense que la meilleure façon de responsabiliser un enfant, c'est justement de le responsabiliser, de lui faire confiance. Donc l'espionner et réfléchir à sa place, c'est le déresponsabiliser, et du coup c'est pas forcément une bonne chose. Alors après, je suis pas sociologue.
Après c'est à chacun à chaque parent de décider de ce qu'il veut faire ou pas, bien sûr. Oui. Bon, alors dans la mesure du possible, éviter de le laisser surfer seul sur Internet. Quels sont les autres conseils qu'on peut donner aussi aux parents qui ont des enfants et qui surfent?
Alors limiter l'accès des enfants sur Internet, c'est-à-dire que c'est comme la télé, ça se limite en temps et
comme jeu vidéo,
c'est
pas du libre service, qu'on peut faire n'importe quand.
Donc limiter ça, favoriser les activités extérieures, favoriser les activités sociales. Souvent, Internet est un retranchement d'une vie sociale, je pense, qui manque dans la vraie vie. Donc voir s'il n'y a pas éventuellement un défaut de contact et de vie sociale avec le reste. Et bien entendu, ensuite, utiliser des outils qui vont savoir être intelligents à la place de l'enfant, tels que un train d'Internet Security, qui saura qualifier si le site ou non présente une anomalie, des risques ou ce genre de choses-là.
Et puis surtout, surtout ces systèmes de réseaux sociaux, etc., ne pas accepter des amis qu'on ne connaît pas, parce qu'après, ils rentrent. C'est très important.
De toute façon.
Pour pas après qu'ils puissent s'immiscer dans votre sphère, Facebook, Windows Live, etc. Merci beaucoup Frédéric Guy. Merci d'avoir été notre invité. Rappelons que vous êtes expert sécurité donc chez Train de Micro. Train de Micro donc qui fête ses 20 ans. Bah écoutez, bon anniversaire alors.
Eh bien merci beaucoup.
Merci. Vous restez avec nous. De quoi je mail, la suite c'est dans un instant et ce sera avec la rédaction de Micro Hebdo comme chaque semaine. Et Yvan Roux qui me rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC. De quoi je me mail, François Sorel.
Voilà, suite et fin de quoi je me mail, Yvan Roux m'a rejoint dans ce studio. Yvan Roux, bonjour.
Bonjour François.
Rédacteur en chef de Micro Hebdo et le numéro 554 est dans les kiosques. Vous pouvez vous ruer dessus, car en couverture, cette semaine, les meilleurs utilitaires gratuits pour améliorer Windows. Et ça, c'est pas de la gnognotte, Yvan, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y en a déjà plus dans le kiosque en bas de chez moi, là.
C'est vous qui les avez tous achetés ?
Non,
c'est pas votre genre en plus. Et nous avons aussi Benoît Henry qui est là. Bonjour Benoît.
Bonjour François.
Benoît Henry qui, lui, est spécialiste de tout ce qui est nettop, netbook, mini PC. Alors lui, voilà, c'est ça Benoît.
Oui, je m'y intéresse pas mal.
Entre autres, c'est sa spécialité.
C'est monsieur produit de Micro Hebdo.
Voilà. On va aussi s'intéresser dans un instant en comparatif des disques durs externes de 250 gigas à... tarif là encore hallucinant.
Pas cher.
250 gigas, pour vous donner un ordre d'idée, on trouve des choses déjà assez sympas à moins de 70 euros. Vous rendez compte ?
69.
69 même. Et vous rendez compte, 250 gigas, on commence à stocker pas mal de choses quand même. Mais il y a un petit comparatif dans le Micro Hebdo, on va s'y intéresser dans quelques instants. Benoît.
Oui.
On va maintenant suivre notre saga du PC low cost. Alors après les petits portables à 250-300 euros, là maintenant, alors c'est étonnant parce que c'est quelque chose qui a été initié par Asus et qui, on a l'impression, est là encore une fois pris et accaparé par les autres constructeurs, ce sont les PC bureaux, mais à bas prix.
Qu'on appelle nettop.
Les nettop.
Les netbooks pour les portables et les nettop pour les PC de bureau.
Exactement. Alors bon, on est toujours dans des gammes de tarifs, on va commencer par la plus bonne nouvelle, on est à combien là ?
Pour le premier qui est donc l'Asus e-box, on est à peu près je crois à 229 euros sans le clavier souris, 249 avec clavier souris. Et pour le médium là, que nous avons en test dans ce numéro, c'est 299, donc moins de 300 euros.
Voilà, on n'a pas l'écran.
Pas d'écran, c'est juste unité centrale.
Mais pour vous dire, on trouve des écrans aujourd'hui à Acer, il y a une promo qui tourne en ce moment, un Acer de 24 pouces, alors 24 pouces c'est immense hein. Là, vous avez vraiment une grande surface d'affichage pour travailler, pour jouer, etc. à moins de 200 euros. Vous vous rendez compte ?
Donc, pour 500 euros, une petite session de travail.
Avec un grand écran.
Avec un grand écran, ouais, très bien.
Bon, alors, il y a quoi là-dedans ? Il y a du Windows, c'est du Linux, on retrouve à peu près la même configuration matérielle que sur les netbooks ?
Exactement, en fait, c'est un netbook qu'on a mis dans un mini-boîtier de PC. Donc, on retrouve de l'Atom. Comme d'habitude, le processeur cher
c'est pas le fromage, je préfère le dire parce que pour tous ceux qui habitent à la campagne et qui se disent mais que se passe-t-il ?
J'allais la faire, mais François, t'as devancé.
L'Atom, c'est en fait un...
Atom, A-T-O-M, Intel, voilà, N270,
voilà.
1 GHz,
voilà. 1,6, pardon. Au lait de vache ou... Et donc ça, c'est un processeur Intel.
C'est un peu sérieux.
Voilà, et donc c'est un processeur qui est low cost et qui consomme pas beaucoup d'énergie.
Spécialement low cost, en deux mots, L-O-W, plus loin, C-O-S-T.
Voilà.
Low cost.
Ça, c'est pas le nom d'un fromage.
Non.
Ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de petite machine ?
À peu près comme les mêmes choses qu'avec un netbook, c'est-à-dire de la bureautique légère, du multimédia très léger aussi, c'est-à-dire visionnage de films, écouter de la musique, et du surf sur Internet.
Moi, je dirais quand même, pas ce qu'on fait avec un netbook, ce qu'on fait avec un PC d'entrée de gamme.
Ouais, est-ce que ça peut se substituer, Benoît et Yvan, est-ce que ça peut se substituer à un PC d'entrée de gamme qui va être sensiblement plus cher malgré tout hein
Oui et non. Moi, je suis un peu plus, peut-être un peu moins d'accord qu'Yvan sur ça. Non, parce que ne serait-ce qu'on est, on est déjà limité par la puissance et les performances du processeur Atom.
Alors, un PC d'entrée de gamme il y a deux ans.
Ouais.
D'accord.
Non mais c'est vrai, c'est sans rire, c'est vrai qu'on peut, on peut faire du traitement de texte, de la bureautique.
Oui, voilà, oui.
Bon, du surf, alors c'est non, vrai mais... qu'on en parlait avant avec François, ça, ouais. C'est vrai que le surf sur certains sites, ça risque d'être un peu dur, un peu lent.
C'est ce que j'ai comparé avec certains netbooks, mais j'imagine que vous, la rédaction de Microhebdo, c'était la même chose. J'en ai testé quelques-uns, tout comme vous, et c'est vrai que vous prenez des pages web assez lourdes, avec beaucoup d'affichage, eh bien, on sent qu'on est sur une configuration quand même assez légère, avec un petit processeur, pas beaucoup de mémoire vive. Et on sent une grosse différence avec un ordinateur digne de ce nom, avec un processeur Core de Duo.
C'est un simple cœur.
Voilà, c'est ça. Mais on le sent, parce qu'on dit oui, c'est super pour surfer sur Internet, certes, mais c'est un petit peu plus lent, malgré tout, même quand on surfe sur Internet, qu'un PC qui coûte un petit peu plus cher. Hein. Voilà, bon, cette précision est en fait.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Donc, clavier, souris.
Clavier, souris fourni avec ce Médion, ce modèle Médion.
On a joli ou pas
Écoutez, j'étais assez surpris. Ayant vu l'IPC, enfin l'iBox, le premier Nettop, qui était tout petit, tout compact, quand j'ai déballé le carton et j'ai sorti le modèle de Médion, la Koya, j'ai l'impression de trouver un shuttle comme il y avait il y a 5 ans.
Voilà. Donc, au point de vue design, c'est moins réussi.
Et puis, il est gros. Il est gros pour un petit.
Voilà, il est gros pour un petit. Ouais. Ouais. Et en même temps, c'est parce qu'il a un lecteur optique, un graveur de DVD double couche à l'intérieur, contrairement à l'iBox qui est livré sans.
D'accord. Il a une petite antenne parce qu'il est Wi-Fi.
Il est Wi-Fi. Wi-Fi intégré.
C'est quand même pas mal parce que.
Et pour Ethernet gigabit, pour se raccorder.
Voilà. Donc, pour des travaux de bureautique, d'Internet, etc., pour écouter des musiques, ça suffit. Il y a un disque dur confortable.
160 gigas, limité aussi, comme pour les netbooks, par Microsoft, voilà. Pour obtenir XP.
Voilà, il y a Windows XP, donc un système d'exploitation assez léger et performant.
Et il y a quand même un défaut gênant sur ce genre de machine, c'est qu'il est un peu bruyant.
Il n'y a pas de haut-parleur là.
Non, il n'y a pas de haut-parleur.
Donc il faut.
Faut brancher. Ouais. Il y a des sorties casque, sorties prise micro et casque.
Acheter des petits haut-parleurs. Donc voilà. Hein. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut rajouter un écran en plus après des petits haut-parleurs. On est à 550 euros. Hein, quand même.
Mais en même temps, c'est ce qui va faire sensation au début d'année prochaine. Hein. Il y a beaucoup de constructeurs qui vont s'aligner sur ce marché. Messi a prévu le sien. Mm-hmm. Et aussi, ce qu'on attend avec impatience, ce sont les. All-in-one ou les tout-en-un, c'est-à-dire un écran avec l'ordinateur intégré dedans, à l'instar des iMac d'Apple.
Des iMac d'Apple, sauf que ça coûtera beaucoup moins cher.
Beaucoup moins cher.
Sans doute. Tiens, et Apple, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ils ont déjà le Mac Mini, le tout petit Mac Mini qui n'a pas été un vrai succès. Hein. On va voir si justement ils vont continuer dans cette voie-là. Ça n'a pas été un gros succès. Merci Benoît.
Merci.
10 disques durs externes portatifs, le comparatif de Microhebdo de cette semaine. Si vous achetez ce petit PC, donc le Nettop d'Akoya que Benoît vous a présenté, que 160 gigas ne vous suffisent pas, et bien là, tac, vous branchez ça sur le port USB de votre ordi, vous vous retrouvez avec 250 gigas supplémentaires. Bon, déjà, c'est malin parce qu'ils disent 250 gigas, mais quand vous branchez, vous en avez 210. Il y en a 40.
Non, c'est un petit peu plus.
Ouais,
un petit peu plus. Enfin, bon, 230.
Voilà, il y en a 20 qui partent.
On l'a indiqué d'ailleurs dans le tableau. C'est vrai. Bon, nous, on ne peut pas écrire sur la couverture des disques durs de 233 gigas. Le lecteur prendra ça pour une coquille, comme on dit.
Mais c'est vrai quand vous le branchez, vous n'avez pas 250 gigas. Il y a un petit peu moins.
Voilà.
Hein, 10% moins environ. Votre comparatif fait quoi là? Vous avez comparé la vitesse des disques durs
on a comparé la vitesse des disques durs. Alors, je pense en technique, parce qu'on n'a pas le temps, mais sur des petits fichiers, beaucoup de petits fichiers, des gros fichiers, c'est pas mal, il y a quelques disparités, ce sont pas des foudres de guerre, hein, faut le savoir. Donc c'est essentiellement du matériel, du fait qu'il est portable, c'est justement pour pouvoir se balader. Ça peut servir d'appoint à un portable.
Le premier de ce comparatif, c'est Maxtor.
C'est un Maxtor.
Qui est une marque très réputée dans le domaine du stockage, hein, quand même.
Ah oui,
c'est le OneTouch 4 mini 250 gigas qui est à 89 euros.
89 euros, ce qui nous fait du prix au giga à 38 centimes.
Voilà, et c'est vraiment pas cher.
Le meilleur rapport qualité-prix, c'est un Macouet.
Ouais.
69 euros et le prix au giga, 30 centimes d'euros.
Voilà, donc
ça a l'air idiot de parler de prix au giga, mais si, je trouve que c'est une excellente référence.
C'est un peu comme le prix au litre quand on achète des canettes de coca, hein. On se rend compte tout de suite de la différence. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça.
Oui.
Bon.
C'est vrai.
Et c'est le Macway, donc c'est le Storeva X5 250. Voilà. à 69 €. C'est le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. Et si vous voulez voir tous les autres modèles, n'hésitez pas, c'est dans le micro hebdo de cette semaine. Benoît, Yvan, merci beaucoup.
Merci.
Yvan Roux, rappelons-le, rédacteur en chef de micro hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle, c'est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous écrire rmc.fr, rubrique De quoi je me mêle, à nous rejoindre sur le groupe Facebook de quoi je me mêle. Le podcast sera disponible et exceptionnellement dès lundi et non pas demain pour des petites raisons techniques. Mais on sera là lundi en podcast. D'ici là, bonne semaine à tous et au week-end prochain. Salut à tous.